Coulam.
Eh bien, chose promise, chose due, en direct cet après-midi sur Coulam Radio, nous avons eu l'occasion de vous l'annoncer largement. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir en direct cet après-midi Alexandre Delval. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Alexandre, vous êtes docteur en histoire contemporaine, consultant international, chercheur associé au Center of Political and Foreign Affairs. Vous êtes professeur de géopolitique et de relations internationales. Alors, vous publiez avec Emmanuel Razavi le projet « La stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France » et dans le monde aux éditions de l'Artilleur. Alors, je voulais vous dire d'entrée de jeu que j'ai été profondément impressionné par votre ouvrage, qui est une mine de recherche où on voit que vous êtes allé dans le moindre détail, en travaillant bien sûr sur les archives, mais en mouillant la chemise et en allant également à la rencontre de différents protagonistes dans les... Vous n'avez pas eu peur d'aller rencontrer des frères musulmans ?
Alors, je vous avoue, j'ai d'autant moins eu peur que le livre a été fait par deux personnes qui se sont un peu partagé les rôles. Nous avons fait quelques missions ensemble, en Turquie, dans les pays du Golfe, mais les rencontres avec les frères musulmans en Égypte, Emmanuel Razavi l'a fait avec sa société de production, il est producteur. D'ailleurs, son caméraman a pris 3 coups de couteau.
Ah oui.
Lui-même a fini à l'hôpital, extrêmement endommagé par une dizaine de personnes qui l'ont tabassé. C'était en pleine révolution arabe. Alors j'avoue, je suis quand même assez content de ne pas avoir été là à ce moment-là, même si on se sent un peu lâche. Hein. Mais bon, ce n'était pas prévu que j'y aille. Et il est très courageux. Voilà, donc c'est un chercheur géopolitique qui travaille depuis 15 ans sur ce sujet, qui a rencontré le travail d'un grand reporter de guerre. Razavi, un reporter de guerre. On a mélangé nos deux compétences. Et ce qui nous avait frappé quand on s'est rencontrés, déjà très longtemps, on a écrit un livre sur la Turquie ensemble il y a 15 ans. Mais depuis qu'on s'est revus, parce qu'il était parti pendant très longtemps en Afghanistan et ailleurs, on s'est rendu compte que ce qu'il a vu sur le terrain depuis 15 ans, c'est exactement ce que j'ai constaté, moi, de manière un peu plus intellectuelle. Et donc, il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse un livre ensemble. Il m'a dit, tu corrobores intellectuellement ce que moi, je constate physiquement.
Alors ça, c'est la mine de connaissances et de renseignements que je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs. Alors, vous avez décidé de démarrer votre ouvrage par un point d'actualité relativement récent. Vous évoquez Michel Harpon, oui, auteur des meurtres de la préfecture de police. Vous dites d'ailleurs qu'il n'est pas venu à l'islamisme uniquement par Internet, mais en fréquentant une mosquée et des imams frérot-salafistes.
Oui, alors frérot-salafiste, c'est très important d'utiliser cette expression que utilisent Enda Ayari, Zineb, de nombreux musulmans ou ex-musulmans anti-islamistes utilisent cette expression, et aussi maintenant pas mal de chercheurs, parce que contrairement à ce qu'on croit, bien qu'il y ait une dispute entre le Qatar qui protège les frères et l'Arabie Saoudite supposée protéger les wahhabites, qui sont en fait le nom saoudien des salafistes, en fait, c'est le même islam. Hein. Il faut savoir qu'il y a 4 écoles juridiques dans l'islam sunnite. L'école la plus radicale, la plus fondamentaliste et la plus totalitaire, c'est l'école Hanbalite, qui a donné Ibn Taymiyyah, l'ancêtre du djihadisme, d'un point de vue théologique, et qui a donné aussi Abdel Wahhab et d'autres penseurs. Et il faut savoir que l'école de Ibn Hanbal, qui a donné Ibn Taymiyyah et Abdel Wahhab, le créateur du wahhabisme, ce sont les références à la fois des salafistes purs et durs, qu'on appelle salafistes quiétistes ou saoudiens ou djihadistes, mais c'est également la source théologique des frères musulmans. Et ça, on devrait le dire beaucoup plus souvent, les frères musulmans s'abreuvent de la même source idéologique et religieuse que les salafistes. Et d'ailleurs, mieux que cela, le vrai nom des frères musulmans, c'est salafistes réformistes. Il n'y a pas de différence entre salafistes et frères. Les deux sont salafistes, sauf que les frères musulmans, c'est l'aile pseudo-réformiste du salafisme qui fait croire qu'elle est réformiste parce que, en gros, ils mettent des cravates. Et ils utilisent les élections. Et les autres, c'est les salafistes quiétistes ou monarchistes ou djihadistes qui sont... Mais les deux sont salafistes. Donc ce sont des frérots salafistes.
Alors justement, l'objet de votre livre, c'est de démontrer que les frères musulmans constituent la matrice du totalitarisme islamiste.
Oui. Alors le mot matrice, nous l'avions aimé parce que matrice, ça ne veut pas dire qu'il y a un gourou ou qu'il y a un complot ou que tout le monde est pareil. Mais c'est qu'il y a quand même un kit de formation initiale, une base, certes avec des chemins très différents, parfois opposés, mais la formation est la même. Et la formation, c'est quoi ? À la chute de l'Empire ottoman, il y a eu une personne diabolisée dans tout le monde musulman qui s'appelle Atatürk, qui était accusé d'être juif masqué, franc-maçon, laïque. Il est mort d'une cirrhose du foie, il était très laïque. Et il a aboli le califat. Et là, on est à la naissance des Frères musulmans. 4 ans plus tard, après l'abolition du califat par Atatürk, un certain Hassan el-Banna, en Égypte, qui est adepte du salafisme déjà, mais qui se dit salafiste réformiste, face aux vrais réformistes laïcs, lui il propose un réformisme dans l'autre sens qui revient en arrière, parce que salaf ça veut dire revenir aux pieux ancêtres, et il dit la seule solution pour les musulmans, pour être eux-mêmes, pour être forts, etc., il faut qu'ils soient califaux. Il faut rétablir la charia dans tous les pays, et les nations sont une invention des mécréants. Aucun État-nation ne peut diviser la Oumma, il faut rassembler la Oumma dans un califat. En fait, les premiers qui proposent l'impératif de la charia comme seule source du pouvoir et la nécessité d'établir un empire mondial qui est terrifiant parce que l'idée c'est de dominer toute la terre. Ça égale Hitler et Staline. L'idée c'est de dominer toute l'humanité et d'imposer à tout le monde par la malice, la terreur ou la manipulation ou la propagande une loi unique. Les rouges c'était la loi unique du marxisme et de la lutte des classes. Les bruns c'était la loi unique de la race et ici c'est la loi unique de la théocratie, se soumettre aux lois de Dieu.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous affirmez que l'étude du djihadisme ne peut pas faire l'économie de celle du continuum qui fait découler d'une matrice idéologique, matrice idéologique fréro-musulmane ?
Alors le continuum, c'est l'expression d'un ancien terroriste, vous savez, qui était juste après l'époque de Khaled Kelkal, le fameux terroriste lyonnais à moitié algérien, David Valat. David Valat, qui aujourd'hui est un des rares réels repentis, qui a été dans le staff d'Al-Qaïda en Afghanistan, donc c'est pas n'importe qui, il dit il y a un continuum. Le continuum, c'est le lien entre un mouvement djihadiste qui a l'air d'être réduit à des voyous ou des psychopathes et les Frères musulmans. Et il reconnaît qu'il y a un lien avec les Frères musulmans et un lien avec l'islam tout court. Ce continuum, c'est ce qui fait qu'il y a un sous-jacement idéologique. Or, les Frères musulmans sont ceux qui ont fait renaître l'islamisme sunnite salafiste par opposition d'un côté au réformisme musulman qui existait, il y avait un espoir, il y avait des musulmans qui voulaient réformer l'islam, mais contre le vrai réformisme des laïcs ou de ceux qui avaient une vision soufie ou rationaliste, les Frères musulmans sont très malins, ils ont repris le mot de réformisme pour en fait justifier un retour au fondement de l'islam, l'islam conquérant des 4 califes bien guidés qui ont succédé à Mahomet et qui ont créé le fameux califat à Damas, Omeyyade et ensuite à Bagdad. Donc le continuum c'est quoi ? C'est tout simplement revenir à l'islam pur et dur, non réformé, qui n'a subi aucun aggiornamento, qui est guerrier comme au temps des premiers musulmans. C'est pour ça que les salafistes comme les frères musulmans vénèrent le djihad. Parce que le djihad c'est pas une invention du Hamas ou du Hezbollah ou de Khomeini ou d'Al-Qaïda. Le djihad, l'idée de mourir pour la foi, dans le Coran il est écrit que le seul moyen d'avoir la garantie d'arriver au paradis c'est quand on meurt pour Allah dans le cadre du combat. Donc c'est ça le continuum, c'est revenir à des sources qui malheureusement n'ont jamais été désacralisées, qui sont au cœur de l'islam fondamentaliste.
Alors vous citez d'ailleurs Zidane Meribout, directeur des relations internationales, qui affirme que les frères musulmans constituent la sève de l'islamisme mondial.
Oui, on peut le dire parce que premièrement, c'est leur doctrine qui a été reprise, le salafisme réformiste ou pas. Deuxièmement, leur culte du califat a été repris. Et troisièmement, leur culte aussi, leur savoir-faire de la malice, de la dissimulation, du double discours. C'est les frères musulmans qui ont été les premiers. On dit souvent que c'est chiite. La taqiya est chiite, mais c'était dans un cadre de survie chez les chiites. C'était très, parce que les chiites, avant Khomeini, étaient plutôt un islam apaisé. Mais par contre, chez les sunnites, c'est une arme de guerre. On a pas mal de sourates et de hadiths qui disent la ruse c'est la moitié de la guerre. Et donc les frères musulmans, donc en restant de bons musulmans finalement, ils ont trouvé dans la théologie islamique traditionnelle la justification de la fourberie, de la dissimulation, du mensonge, de l'infiltration. Et c'est pour ça que sans se renier, tout en étant des hommes de foi, ils sont capables des pires mensonges, mais des mensonges pieux. Un frère musulman peut jurer qu'il n'est pas frère musulman. Il peut même jurer sur le Coran qu'il n'est pas musulman. Il a même le droit de renier son père, sa mère, sa foi, sa religion, son langue. Alors effectivement, comment combattre contre des gens qui ont le droit de mentir au plus haut point ? L'idée étant qu'ils mentent afin de tromper les mécréants en vue de faire grandir l'islam. Et à ce titre, les frères musulmans se disent l'Europe c'est intéressant l'Europe, parce que l'Europe n'a pas besoin de pratiquer le djihad, et on en vient aux frères musulmans. Pourquoi les frères musulmans sont djihadistes en Syrie, par exemple, ou à Gaza? Ils sont djihadistes parce que c'est le Hamas, c'est Al-Qaïda, ils ont beaucoup aidé beaucoup de mouvements terroristes. Et pourquoi en Europe, les frères musulmans se posent comme la garantie contre le djihadisme? C'est leur fourberie qui le permet. Ils vont renier ici ce qu'ils font là-bas. La main droite va ignorer ce que fait la main gauche.
Alors, c'est très intéressant, vous décrivez les sept phases de l'objectif de réislamisation et de conquête islamique universelle qui part de l'individu musulman jusqu'à la domination universelle. Alors, je ne connaissais pas ce mot, le tamkin planétaire.
Alors, le tamkin planétaire vise à édifier la souveraineté, parce que l'obsession des frères musulmans, ce qui montre qu'ils ne sont pas du tout spirituels, mais qu'ils sont purement politiques, c'est la hakimiyya, c'est le hukum. Le hukum, c'est le pouvoir, la hakimiyya, c'est la domination mondiale. Il parle aussi de wilaya, il parle constamment de termes politiques. Il y a constamment l'idée de pouvoir, de domination terrestre, politique. Et le tamkin, c'est l'idée d'arriver à une domination planétaire. Et leur phrase qu'on a retrouvée dans le texte qui s'appelle Le Projet, d'où le titre de notre livre. Hein. Notre livre s'appelle Le Projet parce que en 2001, les polices américaines, en collaboration avec les polices helvétiques, dans le cadre de l'enquête sur le 11 septembre, ont trouvé un ouvrage secret des frères musulmans au siège de la banque des frères musulmans et du domicile du président de cette banque, Youssef Nada, à Lugano. Et dans ce texte qui s'appelait « Le projet », il est décrit comment actionner la stratégie du Tamkin en Europe, infiltrer, faire de l'entrisme, contrôler des syndicats, des associations, prendre des partis politiques, contrôler l'éducation, les médias, s'infiltrer partout et petit à petit transformer l'homme musulman, la famille musulmane, la nation musulmane pour un jour arriver comme tel un fruit mûr à ce que des sociétés de manière tranquille, douce, sans forcément de violence, même plutôt avec le djihad du verbe, plus que la violence, de manière très pacifique, à ce qu'une société un jour soit tellement gangrénée par la propagande islamiste, communautarisée, travaillée de l'intérieur, qu'elle tombera comme un fruit mûr.
Alors, vous nous permettez de découvrir des outils, je dirais des concepts. Alors, vous l'avez parlé tout à l'heure de la taqiyya, qui est le mensonge. Vous parliez du double discours, la mudara. Pouvez-vous nous expliquer les concepts de Tarid et de Kitman?
Ah oui, alors, Kitman, Tarid, Taqiyya, Mudara, tous ces thèmes sont des thèmes, il y a à peu près une quinzaine de classifications dans la sagesse, entre guillemets, enfin dans la littérature de la jurisprudence islamique. Il y a plusieurs façons de mentir, de dissimuler, de cacher, de tromper l'ennemi. Et donc, il y a plusieurs termes, en gros, pour les auditeurs. L'idée, c'est que selon les circonstances, selon qu'on soit dans un principe de survie ou dans un principe d'offensive ou dans un principe de dissimulation parce qu'on a été démasqué, donc suivant les circonstances, qu'on soit victime ou pas, offensif ou défensif, on a des mots différents mais qui désignent la même chose. La ruse, c'est la moitié de la guerre. Et donc la ruse est absolument permanente. Alors on le sait pour les djihadistes, hein, c'est devenu quelque chose de connu, on le voit même dans les films comme Le Bureau des légendes, tout ça. Mais les juges ont un grand mal à lutter contre le djihadisme parce que le mensonge est devenu une seconde nature. Mais en fait, la matrice, c'est les frères musulmans. Les premiers qui ont pratiqué le mensonge comme un nouveau pilier de la religion, c'est les frères musulmans.
Alors ce qui est absolument consternant, c'est qu'il y a effectivement cette stratégie du mensonge à laquelle vous faisiez référence. Et de l'autre côté... je pense, comparaison n'est pas raison, mais Hitler, Mein Kampf, et là on a la déclaration de Moussef Al-Qardaoui, oui, la référence spirituelle et juridique du suprême des frères musulmans dans le monde, qui déclare tuer les juifs, les apostats et les homosexuels. Et ce oui. Moussef Al-Qardaoui a été officiellement salarié à la mairie de Londres.
Oui, alors ce qui est fou, c'est que Qardaoui a été invité très souvent à des colloques du Parlement et de la Commission et du Conseil européen. Il a été associé à plein d'associations tout à fait bien vues, avec notamment l'ONU, le Dialogue des Sages des Nations Unies. D'ailleurs, Tariq Ramadan faisait partie aussi. Il a été associé à la mairie de Londres. Plusieurs de ses partenaires ont été associés à d'autres mairies en France, en Allemagne, en Angleterre. Monsieur Qardaoui a également, en toute liberté, créé le Conseil de la Prédication et de la Fatwa à Dublin. Et Mitterrand avait donné pour un euro symbolique un terrain à Château-Chinon en France pour former les imams européens. Et c'est Qardaoui qui patronne tout cela. Et Eh bien, figurez-vous que ce monsieur qui explique comment il faut jeter les homosexuels des falaises, il dit même, pour l'homosexualité, les juristes ne sont pas tous unanimes. Certains disent qu'il faut les défenestrer, d'autres les jeter des falaises, d'autres les pendre. Oui, c'est vrai que c'est très varié. Dans tous les cas, il faut les massacrer. Donc, pour les juifs, pareil, il a une célèbre fatwa. Il rappelle d'ailleurs un hadith tout à fait officiel. Il dit quand les juifs se cacheront derrière les arbres, c'est connu, hein, vous le connaissez sûrement, et les pierres parleront pour que les musulmans puissent déceler le juif et le tuer. Il parle aussi du djihad, qui est tout à fait légitime. Il a souvent fait des fatwas contre des chefs d'État. Il avait demandé à tuer Moubarak, Ben Ali, Kadhafi. C'est un homme charmant. Hein. Régulièrement, il fait des fatwas. Lui, quand il y a une révolution arabe, il ne s'emmerde pas à proposer des élections. Il dit il faut la tête de Kadhafi. Après, il faut la tête de Moubarak. Il passe son temps à faire des fatwas criminels. Dans son livre en vente en France, j'ai jamais réussi à le faire interdire en parlant avec des hommes politiques français, son livre « Le licite et l'illicite » incite à battre sa femme, il donne les endroits du corps sur lesquels il faut cogner, il incite aussi à tuer pour trois raisons, les apostats, les gens qui sont adultères ou ceux qui se moquent de l'islam, donc finalement Charlie Hebdo, c'est tout à fait légitime pour Kardawi. Donc comment voulez-vous lutter contre le djihadisme si les frères musulmans ont le droit tranquillement d'édicter des livres qui vous expliquent qu'il faut tuer ceux qui se moquent de l'islam? C'est aberrant de lutter contre les djihadistes de Charlie Hebdo si on ne lutte pas contre ceux qui légitiment avec une grande légitimité, parce que Kardawi, il a formé plein de gens à El Azhar, il est diplômé de l'université du Caire d'El Azhar, il est consulté dans l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, il est une référence de l'ISESCO, c'est l'UNESCO des musulmans, qui réunit plein d'États tout à fait légitimes avec l'imprimatur des ambassades. Cet homme est mondialement une référence, c'est l'un des plus grands savants de l'islam, tout à fait officiel. Il n'est interdit pratiquement nulle part, sauf, bizarrement, dans les pays arabes. Alors les pays qui persécutent les frères musulmans, c'est les pays musulmans.
Alors vous me donnez l'occasion de la transition. Je rappelle que nous recevons cet après-midi Alexandre Delval qui publie Le Projet avec Emmanuel Radzavi, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde aux éditions de l'Artilleur. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous appelez la trahison des clercs, oui, ou de la complicité objective, je rajouterais peut-être parfois subjective également, de l'Occident face au totalitarisme vert.
Oui, il y a une véritable complicité parce que quand on voit qu'aujourd'hui, lorsque les frères musulmans sont renversés du pouvoir en Égypte ou ailleurs, c'est pas les Émirats arabes qui se plaignent, ni l'Arabie saoudite, c'est l'Amérique d'Obama qui a littéralement diabolisé El-Sisi comme étant un antidémocrate. Alors c'est vrai que les frères musulmans avaient gagné des élections démocratiquement en Égypte, c'est vrai. Mais enfin Hitler aussi, c'est pas parce qu'on gagne une élection qu'on est tout à fait démocratique. Donc les Américains jouent un jeu dangereux. Enfin, avant l'arrivée de Trump, ils ont énormément misé sur les frères musulmans. Hillary Clinton était aussi pro-frériste que Obama. Et je remonte même à Bush, malheureusement, même George Bush a été très proche des frères musulmans. Rappelons qu'il n'a jamais voulu interdire le CAIR, le Council of American Islamic Relations, le plus grand lobby des frères musulmans aux États-Unis. Il est structurellement lié au Hamas. Imaginez, le Hamas, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la branche djihadiste des frères musulmans. Donc quand on nous dit que les frères musulmans sont pacifiques parce qu'en Occident, ils sont contre le djihad, peut-être, mais ils sont pour le djihad en Orient. Alors je regrette, c'est comme si on nous disait un nazi en Allemagne prône la paix, mais en Pologne, il prône l'extermination des Juifs, mais pas en Allemagne. C'est comme si on... Alors, on a des gens, c'est l'équivalent de nazis qui seraient gentils quelque part et violents qu'ailleurs. On a des gentils islamistes qui disent, nous, en Europe, on ne prône pas le djihad, mais il faut le faire en Syrie, en Libye, il faut le faire en Égypte, il faut le faire en Tchétchénie, bien sûr en Israël contre les Juifs qu'il faut tous massacrer. Donc, on est complètement naïf. Et pire que ça, c'est de la trahison, parce que nos hommes politiques sont renseignés. Ils savent que les frères musulmans sont une fausse organisation conservatrice. Ce n'est pas des simples conservateurs, comme on avait dit pour Erdogan. Ce sont des totalitaires qui prônent le djihad dans beaucoup d'endroits de la planète, qui soutiennent des mouvements terroristes, comme le Qatar. Ça, c'est un mouvement qui a double jeu. Et donc, on sait parfaitement que la main gauche démocratique, antiraciste des frères, qui en Europe s'allie à la gauche avec des manifestations contre l'islamophobie, en se comparant aux juifs, quelle obscénité! Quand on sait que les frères musulmans ont été créés avec la complicité des nazis en Égypte.
On y viendra tout à l'heure.
On y viendra. Quelle obscénité de nous traiter de fachos si on est contre eux. Parce que toute la stratégie des frères musulmans, c'est de traiter de fascistes, de racistes, d'islamophobes, tous ceux qui font obstacle à leur projet obscurantiste de califat.
Alors, les pouvoirs occidentaux, notamment français, cette complicité objective, c'est lié à quoi ? À la peur ou une sorte de conséquence de la décolonisation, paradoxe des sociétés ouest-européennes, complexées, qui dénoncent, comme vous oui. l'exprimez, et j'aime beaucoup la formule, en leur sein la paille identitaire populiste, mais exonère la poutre du panislavisme hyper identitaire.
Ah oui, moi ce qui me fascine chez les êtres humains, c'est quand ils sont dans une contradiction obscène tellement qu'elle est flagrante. Alors ces gens sont indignés s'ils sont dans un débat à côté de Dupont-Aignan ou de Marine Le Pen ou Philippot ou même l'Égyptien Messia, bon, pourquoi pas. Mais bizarrement, Benoît Hamon n'a aucun problème à aller serrer les mains pendant la campagne présidentielle en 2017, des pires salafistes des banlieues parisiennes. Il est allé voir des salafistes, mais des vrais, qui ont des sermons antisémites. Bizarrement, ces gens très vigilants contre le fascisme, l'antisémitisme, ils sont vigilants quand il s'agit d'être vigilants vis-à-vis des populistes blancs, yeux bleus ou européens, judéo-chrétiens, voire même à Israël, depuis que c'est un État patriotique, assimilé lui aussi au fascisme et au nazisme. Par contre, aujourd'hui, finalement, si vous voulez être un antisémite tranquille, hein, épargné par la gauche et la vigilance, il suffit de le faire au nom de l'islamisme. C'est ça qui est terrible. Les mêmes qui combattent l'antisémitisme, le racisme, le fascisme, quand c'est le fait du blanc judéo-chrétien, ils le pardonnent totalement, ils l'exonèrent quand c'est le fait du tiers-monde revanchard. C'est une honte, c'est une trahison des clercs, c'est une trahison tout court, et nos hommes politiques le savent très bien. En fait, ils ne combattent pas l'antisémitisme. Moi, je soutiens, ça a choqué. Je soutiens depuis des années, comme mon amie Batior, et elle a tout à fait compris. C'est une des rares qui m'a soutenu quand j'avais dit ça dans une conférence un jour dans la communauté juive. Ça avait choqué. J'avais dit, la plus grande preuve de l'antisémitisme persistant de la judéophobie européenne, c'est de favoriser une immigration sans discrimination, sans sélection idéologique, en provenance exclusivement presque des pays qui détestent les juifs, c'est-à-dire les pays musulmans radicalisés, où depuis des années, on le sait, Boualem Sansal l'a dit, on tête depuis son enfance la haine du juif. Si encore on faisait venir des immigrants de partout, de manière équilibrée, et si de la part des pays musulmans, on avait un processus de sélection avec des principe humaniste, c'est-à-dire qu'on fasse venir les militants, les laïcs, les femmes, les athées, les chrétiens victimes, les yézidis et les musulmans modérés qui échappent à l'islamisme, je comprendrais. Mais l'Europe fait venir pratiquement, elle favorise même plutôt les islamistes, non islamistes, les bateaux de migrants. Vous savez que souvent dans les bateaux de migrants qui arrivent à Lampedusa depuis la Libye, quand le bateau est trop lourd, on jette les chrétiens à la mer. Imaginez le genre de migrants qu'on fait venir à Lampedusa. On a plein de cas de gens qui ont été balancés du bateau parce que c'était les rares chrétiens du bateau. Donc l'Europe fait venir chez elle des prédateurs, des masses radicalisées, haineuses envers les chrétiens et les juifs. Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais sans sélection, elle fait venir des masses de personnes, dont une grande partie, et ce n'est pas de leur faute. Hein, je ne veux pas les juger, ces gens, parce qu'ils ont été abreuvés à ça. Mais ils ont été abreuvés au virus de l'antisémitisme et de l'antichristianisme et de l'anti-athéisme, et même ils ont été abreuvés aussi à la haine du musulman modéré. C'est pas très raisonnable de la part de l'Europe de faire venir aujourd'hui des masses qui viennent de pays radicalisés où on apprend la haine de l'autre.
Revenons, si vous voulez bien, Alexandre Elval, sur ce qu'on a effleuré, c'est les islamo-gauchistes. N'avez-vous pas le sentiment que finalement c'est du cynisme pur et dur ? Ils voient dans les immigrés, les musulmans, le substitut à ce qu'était en temps le prolétariat.
Oui, alors il y a le prolétariat et ça va encore plus loin. Si encore c'était juste séduire des ouvriers parce qu'on manque de syndiqués, ça va encore plus loin.
Et d'électeurs.
Et d'électeurs, voilà. C'est un manque de syndiqués, un manque d'électeurs, mais plus grave, chez les trotskistes notamment, c'est un manque de révolutionnaires. Ils veulent des révolutionnaires pour déstabiliser la République. N'oublions jamais, et c'est pas une accusation, moi j'ai eu des copains trotskistes quand j'étais tout jeune, on était très copains, même si on n'était pas du tout d'accord, j'étais déjà anticommuniste, mais ils apprenaient déjà les techniques révolutionnaires. Je me rappelle d'un ami à 17 ans, il avait déjà des formations révolutionnaires où ils apprenaient les affrontements avec la police, ils apprenaient comment on se couvre, comment on se protège les coudes, où on met des protections sous les vêtements un peu en ferraille. Donc ils sont formés à la révolution permanente. C'est des gens qui veulent faire la révolution. Donc si je veux déstabiliser l'État dans lequel je suis, parce que je suis de la énième international. Et effectivement, je ne vais pas aller recruter un bourgeois pour qui la gamelle est bonne et qui est content dans sa civilisation. Je vais recruter les populations les plus susceptibles d'être radicalisées, parce que c'est les premières victimes. Et comment on radicalise des banlieues à la dérive ? En leur distillant ce que j'appelle le poison de la paranoïa, la paranoïsation de la société. Et j'accuse la gauche et l'extrême gauche d'œuvrer à la paranoïsation de la société islamique, ou plutôt des communautés islamiques, parce qu'il n'y en a pas une seule, ils sont divers, et ils font le jeu des frères musulmans. Les frères musulmans et l'extrême gauche veulent distiller au sein des musulmans d'Europe la fausse idée selon laquelle l'Europe serait raciste, et pas que l'extrême droite. Maintenant, on parle de racisme d'État, c'est une idée dégoûtante, elle est obscène. Quand on sait que dans le monde entier, il y a un seul endroit où il y a une totale liberté pour l'autre, c'est même pas les États-Unis, c'est l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est le havre des libertés qui existent nulle part ailleurs dans le monde. Peut-être en Israël, oui. Donc, une société qui est multiethnique, qui accepte tout le monde, sans distinction de race, de religion, c'est une honte de parler de l'Europe raciste, mais ils le savent très bien. Les islamistes des frères musulmans, comme les militants gauchistes, islamo-gauchistes qui vont manifester à leur côté contre l'islamophobie et le racisme d'État, ils savent très bien que c'est faux. L'idée, c'est de tellement radicaliser ces gens que l'on paranoïse. Vous savez que quand un être humain finit par penser que tout le monde est contre lui, il devient dangereux. Moi, je me méfie des parano, même dans la vie privée. Hein. Quelqu'un qui pense que tout est dû à l'autre, qui ne se remet jamais en question. Lui, il est parfait, il est blanc, il n'a aucun défaut. Je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils n'ont aucun péché, aucune tâche, aucun travers. Ils sont purs et les autres sont impurs. C'est dangereux. Bien, c'est de ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire croire aux musulmans qu'ils sont sans tâche. Ils sont nés victimes et sans tâche. Et bien entendu, les non-musulmans sont nés avec tâche et bourreaux.
Alexandre Delval, est-ce que vous avez des chiffres en tête lorsque vous évoquez la dichotomie entre une majorité de musulmans intégrés face à une minorité d'adeptes de l'idéologie fréro-salafiste ?
Alors vous savez, je suis inquiet parce que quand j'en parle régulièrement avec quelqu'un que j'estime, on me l'a reproché, mais moi je l'aime beaucoup, c'est le recteur de la mosquée de Paris. En privé, il me dit lui-même qu'il est... Il m'a dit « Je suis plus inquiet que vous encore ».
Boubacar.
Il me dit « Le radicalisme progresse partout et de manière rapide ». Et il me dit « Et nous en sommes les premières victimes ». Donc quand des clercs éveillés, parce que c'est un homme éveillé quand même, qui aime les Lumières, il aime beaucoup Voltaire, il parle plus de Voltaire que d'autre chose quand on se voit d'ailleurs. Donc c'est un amoureux de la pensée occidentale. Quand on voit ce genre de personnes qui sont des responsables musulmans, des vrais, d'une mosquée, qu'ils disent que l'intégrisme, l'intolérance et l'islam totalitaire commencent à prendre le pas sur l'islam modéré dans de nombreuses banlieues et au sein même de la communauté musulmane de France, c'est quand même inquiétant. Et il dit ça va être terrible, les conséquences seront terribles parce que ce sera forcément un moment violent. Alors, il n'a pas de chiffres, mais l'Institut Montaigne a des chiffres. Le fameux Institut Montaigne, proche du groupe AXA, qui sponsorise des sondages, notamment avec un musulman, le fameux El Karoui, il a fait des études intéressantes, il est musulman.
Qu'est-ce que vous en pensez de lui ?
Alors, je suis partagé parce que lui est un homme éclairé. C'est incontestablement, c'est un musulman très éclairé. C'est à peine d'ailleurs s'il
est vraiment... Il n'y a pas de double discours, il n'y a pas de mensonge.
Non, lui, ce n'est pas du tout un intégriste. Sa vie, son parcours professionnel, politique, intellectuel, ses références littéraires et théologiques le prouvent. C'est un véritable éclairé. Hein, mais il représente quoi ? Un bourgeois musulman à moitié français, tunisien, énarque, privilégié, qui a été à la Rothschild, qui est totalement francisé et quand vous le voyez, il ne laisse rien transparaître d'un communautarisme islamiste. Il est totalement soluble dans n'importe quel occidental. Pour nous, c'est fantastique. C'est ça le vrai antiracisme. Ce serait le jour où un musulman sera... on ne fera même plus la différence quand on parlera avec vous, avec un musulman ou avec moi. On aura l'impression qu'on est tous juste républicains. Ce serait magnifique. Mais malheureusement, il ne représente pas la communauté musulmane. Bref, et ce Karoui a fait des études intéressantes avec l'Institut Montaigne qui montrent que 30% des musulmans jeunes sondés préfèrent la charia à la loi française. Heureusement, ils ne savent pas trop ce que c'est la charia. Mes étudiants, quand je leur demande, parfois ils sont pour, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais le cœur les porte déjà à se sentir musulmans avant de se sentir français. Mais ça va plus loin. Chez des encore plus jeunes, le sondage a été poussé. On a trouvé 30% de personnes qui, grosso modo, préfèrent les valeurs de l'islam aux valeurs de la France. Et encore 27 autres pourcents qui aurait une allégeance envers la charia avant de l'avoir envers les lois françaises. Donc on aurait un tiers, selon les études de l'Institut Montaigne, les dernières études de Karoui, un tiers seulement des musulmans français seraient français avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et parmi les 60% restants, on aurait ceux qui seraient un peu plus musulmans que français et ceux qui seraient uniquement musulmans.
Wow.
C'est effrayant. Alors c'est chez les jeunes, hein, parce que, vous savez, c'est comme dans toutes les communautés, les jeunes sont beaucoup plus radicalisés que les anciens. Même chez les chrétiens, les mouvements les plus radicaux sont souvent chez les jeunes, et les évangéliques pareil.
Alors, parlons de la bataille contre l'islamisme radical. Vous dites qu'il se joue sur plusieurs fronts, militaire, enseignement, éducation. Oui. Et je voudrais m'arrêter un instant sur l'éducation. Pensez-vous que l'éducation nationale en France puisse agir de manière efficace en la matière ?
Je pense que l'éducation nationale pourrait agir de manière efficace. Moi, avant de faire des études de sciences politiques, j'avais commencé l'UFM. C'était terrifiant. L'UFM, moi je vois les gens qui veulent être des futurs enseignants dans les lycées. C'est absolument grotesque. On ne recrute que des gens qui vont là parce qu'ils ne savent pas où ils veulent aller.
Ah ouais.
Je me rappelle, c'était fascinant. J'avais vu aucune vocation. C'était triste. Et d'ailleurs, moi, ça m'a enlevé très rapidement ma propre vocation. Je me suis dit, c'est ça l'éducation nationale. L'éducation nationale, aujourd'hui, attire grosso modo des gens qui veulent un métier dans la fonction publique avec les vacances scolaires. Et comme il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus d'enseignement civique depuis belle lurette, il n'y a plus d'enseignement classique depuis belle lurette, il n'y a plus ce patriotisme. Rappelez-vous la gauche de nos grands-parents. Il ne badinait pas sur le patriotisme. Même la gauche de Jean Jaurès, de Clémenceau, la gauche des radicales socialistes, de la Troisième République ou même de la Quatrième, ils étaient patriotes. Donc on pouvait encore intégrer et on pouvait régler le problème. Mais aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on attire des gens qui n'ont pas la vocation, qui n'ont pas envie d'aller au feu, au combat, dans les banlieues chaudes. Ils n'ont pas envie de croiser le fer avec l'obscurantisme. Ils préfèrent se plier et on les comprend. Ils sont très peu payés. C'est comme les petits flics. Ils n'ont pas envie d'être des héros pour être payés 1 500 € par mois. Bref, l'éducation nationale, aujourd'hui, n'a pas le patriotisme et, j'allais dire, le républicanisme. La République, c'est comme n'importe quelle nation, n'importe quel sujet politique, ça n'existe que lorsque on se bat pour lui. Aucune cause ne peut être éternelle si on ne se bat pas pour elle. C'est un effort permanent, une cause. Une cause comme une nation, comme une identité. Donc aujourd'hui, pour résumer, l'éducation nationale ne produit pas ce patriotisme intégrateur et ce républicanisme que j'appelle de mes voeux, mais que la République devrait appeler de ses voeux. On n'a plus ces hussards prêts à vraiment lutter contre l'obscurantisme, qui voulaient écraser l'infâme, qui portaient les valeurs des Lumières, qui n'auraient jamais cédé à un obscurantiste. À l'époque, moi, mes parents n'étaient pas en France, mais à l'époque de nos grands-parents, j'allais dire, de la 2e ou 3e ou 4e République, vous imaginez un instituteur céder devant le communautarisme ? C'était inenvisageable, c'était même pas prévu dans son programme, dans son logiciel.
Alors c'est bien, en parallèle à ce qu'on vient d'évoquer, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur ce que vous évoquez, comme quoi la civilisation judéo-gréco-latino-chrétienne n'est pas terra nullius, et je mets ça face évidemment à ce concept de l'idéologie islamiste qui considère tout ceci comme... Alors j'ai du mal à prononcer, Jahiliya.
Ah oui, la Jahiliya.
Voilà. La Jahiliya, ça veut dire que tout ce qui précède est étranger à l'islam.
Alors étranger à l'islam, logiquement, bien sûr, mais surtout, la Jahiliya, c'est la période de la barbarie, de l'ignorance. C'est l'époque de l'ignorance qui caractérise tout ce qu'il y avait avant l'islam. Ce qui est terrifiant dans l'islam, c'est que, comme le dit Bakhtiyor, l'islam non seulement annule ce qui est avant, puisque l'islam vous dit que les prophètes des juifs et des chrétiens, en fait, étaient des musulmans, ou des hanifs qui annonçaient l'islam, comme Abraham, qui aurait été le premier ancêtre des musulmans, Moïse, qui devient Moussa, qui est un musulman, Jésus. Alors moi, j'ai lu un texte dans une librairie islamique sur le Jésus des musulmans. C'était effrayant. Hein.
Ah oui ?
C'est pas le Jésus que je connaissais. Hein. C'est un Jésus qui rend les coups, qui était assez susceptible et qui était loin d'être ouvert, etc. Donc, l'islam, déjà, aspire tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la tradition judéo-chrétienne, elle est islamisée. Mais ce qui n'est pas judéo-chrétien, tout ce qui n'est pas monothéiste ou de la famille abrahamique est nul et non avenu, ça doit être éliminé. C'est pour ça que le Pakistan a été créé d'ailleurs. Hein. Le Pakistan, qui est un pays qui a beaucoup inspiré les frères musulmans, on ne l'a pas dit. Maududi, le chef de l'islamisme pakistanais qui va créer ce monstre qu'est cet État pakistanais qui est la matrice d'Al-Qaïda et des talibans. Maududi, en 1927, a fait le premier grand texte pan-islamiste qui a influencé Hassan al-Banna. Il y a une liaison directe entre la naissance du Pakistan qui s'est créé contre les hindouistes, les frères musulmans, la naissance du mythe du califat qu'il faut rétablir, le djihadisme qui ne fait que finalement activer de manière violente ce que les frères musulmans ont prévu de manière idéologique.
Alors Hassan al-Banna, que vous faites référence, pour lui, Atatürk, c'était l'épouvantail absolu. Il publie en 1936, un manifeste en 50 points
oui.
qui couvre l'ensemble des domaines.
Alors, au-delà du projet, hein, ce livre des frères musulmans secrets qu'on a retrouvé à la banque de Lugano des frères musulmans en Europe, il y a un texte matrice, encore plus matrice, fondateur, c'est les 50 points, les 50 demandes. Et dans ces 50 demandes, j'en avais mis quelques extraits dans mon livre, c'est absolument effrayant, il y a le culte de la violence, il y a le contrôle de la jeunesse, de la société, l'embrigadement, la militarisation de la société, la propagande, le contrôle de l'éducation, des musiques. On retrouve, et j'avais lu un texte très intéressant de Karl Popper et aussi d'Umberto Eco qui donnait les 14 points qui caractérisent un totalitarisme. On les retrouve tous. Vous lisez les 50 propositions de Hassan al-Banna que l'on prétend aujourd'hui, non, il n'a rien à voir avec Qutb et d'autres frères musulmans radicalisés. Lui, c'était la tendance modérée des frères musulmans. Il est pour le califat, pour le djihad, il est pour la violence, l'embrigadement des mœurs, le contrôle des femmes, l'infériorité des femmes, des homosexuels et des déviants et des mécréants. Je regrette, dans les 50 points de Hassan al-Banna, le soi-disant modéré, comme Tariq Ramadan, hein, son grand-père, il le présente toujours comme ayant été mal compris. Je regrette, mais quand on lit les 50 demandes, on a très bien compris. Comme tous les coquins, comme tous les voyous, comme tous les totalitaires, comme les Staline et les Hitler, ils ont annoncé la couleur. Mais comme ils savent qu'on est naïf, ils savent qu'on est tellement naïf et tellement culpabilisé que, bien que la couleur ayant été annoncée, quand ils sont dans un discours politique, une conférence, un débat médiatique, ils sont capables de nier, vous savez, comme le mari pris en flagrant délit qui dit « c'est pas ce que tu crois », et ils savent que finalement, en jouant au con, excusez-moi d'être vulgaire, en étant d'une mauvaise foi absolue, eh bien ça marche, les professionnels de la manipulation le disent, on peut nier quelque chose de manière, regardez les fameuses fake news aussi, hein. On peut nier quelque chose de flagrant, absolument faux, et finalement ça peut marcher.
C'est de cette époque qu'est née la section spéciale des oui. frères musulmans, dont la devise, vous le rapportez, est « la mort est un art, le Coran a ordonné d'aimer la mort plus que la vie ».
Et ça, c'est quoi? C'est le slogan des djihadistes. Aujourd'hui, Al-Qaïda et Daesh disent tout le temps « on aime la mort plus que la vie ». Eh bien, c'est pour ça que Razavi et moi, on a pesé nos mots. Hein. Moi-même, j'avais des réticences au début. Je disais « mais t'es sûr qu'il... » Et en fait, plus on a travaillé sur nos textes respectifs, plus on s'est rendu compte « mais oui, tout y est, y compris le culte de la mort ». Soi-disant qu'il n'aurait rien à voir avec le sunnisme. C'est vrai que dans la tradition sunnite classique, longtemps, on n'a pas eu ce culte de la mort. C'est vrai que ça vient du schisme, en grande partie. C'est la secte des ismaéliens qui avait fait le fameux assassin hein, qui envoyait des commandos suicides. C'est vrai que c'est l'Iran qui a remis au goût du jour le commando suicide. Mais l'Iran s'est inspiré de quoi? Khomeini s'est inspiré de quoi? Khomeini était un adepte de Hassan al-Banna, un membre de Fedayeh Islam, la section iranienne des frères musulmans. Bien qu'étant chiite, Khomeini était membre d'une organisation sunnite et il était le grand admirateur de Sayyid Qutb. Sayyid oui. Qutb, c'est le grand idéologue des frères musulmans qui a fait le lien entre les frères et les djihadistes. C'était un cadre des frères musulmans. Il était responsable de la revue des frères musulmans et il a été conseiller du guide spécial. Conseiller spécial du guide. Bien sûr, aujourd'hui, les frères sont malins quand on leur montre des textes horribles, horriblement antisémites et antichrétiens de Qutb. Ils disent « oui, mais ce n'était pas vraiment un membre de la direction des frères musulmans ». Ce n'est pas vrai. On a les preuves aujourd'hui qu'il était membre.
Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, je rappelle le projet aux éditions de l'Ardilleur. Vous faites référence à la sourate. Alors ça, c'est Sayyid Qutb, j'ai du mal à prononcer.
Oui, Qutb.
Qutb, la sourate 5 du Coran qui dit « depuis les premiers jours de l'islam, le monde musulman a toujours dû affronter des problèmes issus de complots juifs. Leurs intrigues ont continué jusqu'à aujourd'hui et ils continuent à en ourdir de nouvelles. » C'est extraordinaire.
Mais c'est extraordinaire et surtout ce qui est très intéressant et ça va conforter nos auditeurs quand parfois ils doutent de la justesse de leurs propos, ça montre bien que c'est pas le sionisme que combattent ces gens. À la limite, si c'était vraiment que le sionisme, mais qu'ils fassent une distinction totale entre l'individu israélite juif et la nation sioniste. Mais non, là c'est clair, ce qui anime l'antisionisme de ces gens, c'est l'antisémitisme. Absolument. Ils ne sont pas devenus antisémites par antisionisme, ils sont devenus antisionistes par antisémitisme. Vous voyez, là c'est premier, c'est le juif qui depuis le début de l'humanité intrigue. Et donc c'est très important de rappeler que l'antisionisme pour les islamistes est un prétexte qui donne une légitimité soi-disant anticoloniale, progressiste, tiers-mondiste, à en fait quelque chose qui est depuis la lutte entre Mahomet et les juifs de Khaybar et de Médine, une lutte totale entre l'islam et les juifs, parce que les juifs n'avaient pas voulu épouser à l'époque la communauté de Médine, l'ancêtre du califat que Mahomet avait instauré à Médine.
Alors une des illustrations, c'est l'alliance des frères musulmans avec les nazis.
Oui.
Nous avons tous en tête la fameuse photo de Amin al-Husseini avec Hitler.
Oui.
Mais il y a autre chose derrière,
ça va beaucoup
notamment
plus loin.
Le recrutement des musulmans bosniaques, par exemple. En
fait. Alors les fameuses légions Waffen-SS musulmans bosniaques, Anchar, les fameuses légion Waffen-SS albanaise Skanderbeg, également les chemises vertes égyptiennes, parce qu'il y avait beaucoup de nazis qui étaient en Égypte, on le voit dans le film rigolo du jardin, vous savez, sur OSS 07, mais aussi un film plus sérieux avec Bruel, le film K, mais en dehors des films, on a plein de littérature dessus, moi j'ai fait ma thèse sur ce sujet, sur les rouges, bruns, verts, et il y a un homme qui est central, dont on parle très peu, il y a eu un livre qui est paru sur lui, mais on ne rappelle jamais que François Genoux, le banquier d'Hitler, l'homme qui va être l'héritier testamentaire du Troisième Reich. Vous savez que quand le Troisième Reich s'effondre, il y a quand même un trésor de guerre en Suisse. Et c'est le banquier suisse François Genoux qui va être chargé par le Führer lui-même d'injecter ce qui reste d'argent. Il restait quand même pas mal de milliards. Il fallait injecter l'argent du Troisième Reich caché en Suisse au profit de la cause palestinienne, de plusieurs partis nationalistes arabes qui luttaient contre les Juifs et... bien sûr, des frères musulmans. Les frères musulmans. Et j'en veux pour preuve, quand Saïd Ramadan, venons-en à lui, le gendre de Hassan el-Banna et père de Tariq Ramadan, quand il est envoyé en Allemagne et en Suisse forger les premières institutions des frères musulmans, qui est-ce qu'il trouve comme financier pour faire les premières institutions financières des frères en Europe? François Genoux. Il retrouve un autre nazi, Ahmed Huber, dont je parle dans le livre, un ancien journaliste suisse socialiste devenu révisionniste et nazi, qui est devenu également musulman. Ah, vous voyez, c'est de l'islamo-nazisme. Ahmed Huber, il est très connu en Suisse. C'est un révisionniste de la pire espèce, ouvertement pro-nazi. Et c'est avec François Genoux, avec Ahmed Huber et d'autres personnalités proches du nazisme ou même des anciens nazis que Saïd Ramadan va trouver un entourage. Alors, il est très fort, Saïd Ramadan, en Suisse. Il s'entoure de nazis au niveau de son cercle restreint, mais son cercle large pour séduire les médias, les universités. Par exemple, il va souvent être menacé d'expulsion parce qu'il écrit déjà dans une revue extrêmement radicale où il critique les chrétiens, les juifs, les sionistes, les européens. Il a des propos très violents, très occidentaux. À trois reprises, la police égyptienne veut l'expulser. Je le raconte dans mon livre. Et à chaque fois, il est défendu par qui? Soit par l'extrême gauche ou les militants progressistes antiracistes avec qui il a fait alliance, soit, plus surprenant, la CIA. La CIA va entrer en contact avec les frères parce qu'à l'époque, les frères, et c'est malheureux pour l'Occident, vont être vus comme une force de frappe contre le communisme.
Pour les auditeurs qui nous prendront en cours de route, il nous reste 5 minutes. On pourrait rester des heures avec vous.
Merci.
Mais moi, je ne saurais trop leur conseiller de se précipiter sur votre livre aux éditions de l'Artilleur, Le Projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Ça nous permet de découvrir des concepts également. Alors, si vous pouvez très rapidement nous parler du Dar al-Islam face au Dar al-Harb, pour qui l'Europe doit être conçue comme dhimmi.
Alors, c'est fondamental. Les djihadistes pensent que l'Europe n'est que terre de la guerre, Dar al-Harb. C'est pour ça que les djihadistes ne prônent que la violence. Ou alors, partir de l'Europe. Un musulman ne peut pas être non-violent, il ne peut être que dans un rapport de violence avec le non-musulman. Ça, c'est ceux qui pensent que l'Europe est Dar al-Harb. Les frères musulmans, pourquoi paraissent-ils comme modérés? Parce qu'ils ont élaboré une nouvelle jurisprudence, notamment avec Youssef Kardawi, qui a plus de 90 ans, qui est vraiment l'héritier de Hassan el-Banna. Et Kardawi, avec ses disciples, dont Tarek Oubrou en France, il dit « il faut une charia de minorité ». Et l'Europe ne doit pas être vue comme une terre de la guerre. Elle n'est plus vraiment ennemie puisque l'Europe nous paye pour avoir des lycées, nous paye, elle nous donne des terrains symboliques, elle nous aide à avoir des mosquées, les élus locaux, les départements, les États. En Allemagne,
vous parlez des financements endogènes, c'est ça?
Bien sûr, ouais. Endogènes. Ouais. Notamment en Allemagne, on paye les imams, frères musulmans et turcs.
Ah oui?
Ah oui, en Belgique, on paye les salafistes. Moi, j'habite en Belgique plus que la moitié du temps. L'État belge finance les imams saoudiens salafistes et les imams frères musulmans et turcs. C'est hallucinant. Dans pratiquement tous les pays d'Europe, il y a de l'argent d'État au profit des frères musulmans. Donc, pour répondre à votre question, les frères musulmans disent, si l'Europe nous aide à l'islamiser, elle n'est plus vraiment terre de la mécréance, donc terre de la guerre, ça devient terre de l'annonciation, du témoignage. Dar el-Da'wa ou Dar el-Islam. Enfin, pas encore Dar el-Islam, mais Dar el-Da'wa. C'est-à-dire, la Da'wa, c'est l'annonce, la prédication. C'est la phase transitoire entre la société mécréante et la société qui va être islamique. Donc, pas de guerre, ce serait contre-productif. La seule différence entre les salafistes djihadistes et les salafistes réformistes, parce que les frères musulmans, c'est les salafistes réformistes, c'est que les uns ne veulent que couper les langues. Ils veulent vous faire taire si vous êtes islamophobe, d'où l'alliance avec les antiracistes. Les autres veulent couper les têtes. C'est ce que j'appelle coupeur de tête, coupeur de langue.
Allez, dernière question, histoire de faire réagir nos auditeurs. Vous dites que l'islamisme frériste a été choyé par Barack Obama et Hillary Clinton.
Oui. Alors, c'est clair. Hillary Clinton l'a déclaré. Obama l'a déclaré au discours sur le discours du Caire en 2009. Obama a défendu corps et âme Monsieur Morsi, l'homme qui voulait par les élections infiltrer et renverser l'Égypte pour la faire ressembler à ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Obama et Clinton, et même Bush, hein, même Bush a été très très proche des lobbies islamistes frères musulmans. Je ne veux pas vanter Trump parce qu'il est vulgaire et très décevant à bien des égards, notamment avec sa compromission avec Erdogan. Mais Trump est le premier président des États-Unis, il n'y en a pas d'autre, depuis des décennies, qui a clairement dit, en tout cas il ne l'a pas fait, mais il l'a dit, peut-être qu'on devrait interdire les frères musulmans. C'est le seul. Il a même dit peut-être même qu'on pourrait la mettre, comme les Émirats et l'Arabie Saoudite et l'Égypte, on pourrait la mettre dans la liste des organisations terroristes. Mais ça n'a pas été suivi des faits, parce que les grands lobbies, relayés par des démocrates, comme cette fameuse députée voilée qui fait beaucoup parler d'elle, les grands lobbies musulmans relayés par les démocrates au Congrès américain sont très très proches des frères musulmans. Obama avait 6 conseillers frères musulmans.
Ah oui.
Auprès de lui, ou pro-frères musulmans, mais pas uniquement Abidine, il avait de véritables conseillers frères musulmans, je donne les noms dans le livre. Donc vous voyez, l'Europe est loin d'être débarrassée de ce fléau, elle est littéralement gangrénée. Dans les pays anglo-saxons, 80% des mosquées sont contrôlées par des salafistes wahhabites ou des frères musulmans. En France, un tiers de l'islam de France est contrôlé par les frères musulmans du groupe Musulmans de France, et rejoint maintenant par la Turquie, et sponsorisé par le Qatar.
Et évidemment, on parle évidemment de la représentation en Europe, en France, des frères musulmans, des différentes institutions, les différents combats qu'il convient de mener. En tout cas, ce livre est une mine d'or.
Merci.
On apprend énormément de choses, véritablement. D'ailleurs, dans la postface, il est indiqué par l'éditeur, après ce livre, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et c'est vrai, c'est essentiel de pouvoir appréhender l'avenir, et pour cela, eh bien, il y a un ouvrage dorénavant, c'est celui d'Alexandre Elval et d'Emmanuel Razavi aux éditions de l'Artilleur. Il s'appelle « Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde ». Alexandre Delval, merci infiniment d'avoir passé ce moment en notre compagnie, et à très bientôt.
Merci. Coulam.